Vous êtes sur RTL.
FR.
Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Cocorico ! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, je ne boude jamais mon plaisir de vous retrouver le samedi matin pour un nouveau numéro de Nous voilà bien jusqu'à 10h sur RTL. Je vous espère en grande forme et prêt à recevoir votre dose habituelle de bons conseils de conso, jardin et culinaire. Attachez vos ceintures, voici le sommaire. Le petit déjeuner est un repas à ne pas négliger puisqu'il est censé apporter au corps un quart des besoins énergétiques nécessaires pour la journée. Les céréales et les poudres chocolatées dont raffolent les enfants connaissent des ventes exponentielles. Mais comment bien les choisir et s'assurer de leur qualité nutritionnelle? Patricia Chéropoulos, journaliste pour 60 millions de consommateurs, a passé au crible une soixantaine de produits du petit-déj et nous aide à faire les bons choix. En automne, les feuilles des fleurs prennent de jolis tons ocre, rouges et orangés. Les couleurs sont si extraordinaires qu'elles méritent que l'on choisisse les végétaux en fonction de ce seul critère. Alors, quels arbustes planter dans son jardin ou sur son balcon pour profiter de cette féerie automnale? Réponse avec Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Les châtaignes, enfin, elles offrent à l'automne une sympathique occasion de se balader en forêt où petits et grands prennent plaisir à en ramasser au pied des châtaigniers. Fruit d'exception, la châtaigne vous veut du bien puisqu'elle est riche en fibres, en fer, en vitamine C et en magnésium. Mais comment cuire et cuisiner les châtaignes? Réponse avec Sonia Esguignan, cuisinière et journaliste, jamais avare d'une bonne recette.
J'ai le complexe de complexe. Dès le matin, ça me vexe.
J'aime pour bien se réveiller en ce samedi matin, le complexe du cornflakes. Bonjour Patricia Chéropoulos.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et le numéro d'octobre de 60 millions de consommateurs justement est en kiosque. Alors quels sont les principaux défauts de céréales industrielles en général? C'est trop sucré?
Eh ben voilà, ah, c'est voilà. Ça, c'est exactement ça, c'est le point noir, c'est beaucoup trop sucré. Ouais. Après, on peut aussi parler des additifs, mais là-dessus, ça va mieux, hormis les céréales au chocolat, qui sont quand même globalement moins bonnes que les autres.
Alors justement, j'allais vous demander s'il fallait mieux choisir finalement des céréales au chocolat, aux fruits ou nature. Nature me semble le plus...
Ah, pas forcément. En fait, c'est les céréales aux fruits qui sont finalement les plus vertueuses, ouais. Au sens qu'elles sont globalement moins sucrées. Elles restent quand même sucrées, hein, mais moins que les autres. Et puis, elles ont aussi l'avantage, c'est d'apporter des fibres. Parce que, bon, quand le petit déjeuner, ce sont des produits céréaliers et les fibres, hein, il en faut absolument. Et c'est vrai que les céréales aux fruits s'en sortent plutôt bien. Elles sont plutôt riches en fibres.
C'est ce que je vois effectivement dans votre étude qui est sous mes yeux. Est-ce que vous pouvez justement nous citer une ou deux boîtes de céréales industrielles qui ont les meilleurs résultats de votre étude?
Alors, bon, sans tout dévoiler, mais disons qu'au niveau de, bah, notamment les céréales aux fruits, hein, puisque c'est celle-ci, en fait, il emporte, il y a le muesli bio céréales toasté de Charles Vignon, qui s'en sortent très bien. Et puis également, alors je dirais pas les céréales au chocolat parce que bon, même les meilleurs sont quand même pas extra, hein, mais bon, sans doute. Hein. Et puis sinon, au niveau des céréales nature, on a notamment pour celles d'Intermarché qui s'en sortent bien.
Et celles à éviter à tout prix?
Alors là, bon, on va aller puiser du côté des céréales au chocolat. Hein. Je sais que c'est pas bien pour les enfants, mais notamment, en fait, c'est deux grandes marques, hein, qui se trouvent en queue de notre classement. Les moins bonnes, bah, c'est des trésors au chocolat, les céréales fourrées, ce qui n'est pas très étonnant parce qu'il y a beaucoup, pas mal d'additifs, c'est très sucré. Mmh. Et puis les Lion Wild aussi, de Nestlé, qui ne sont pas non plus très très bonnes.
Bon, voilà. En fait, tout ce qui n'a pas, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais vraiment allure de céréales, mais plus allure de sucrerie et de bonbons, quoi.
Voilà, en c'est fait, très transformé, réalité. C'est exactement ça. Alors que les céréales, le muesli ou voire les cornflakes aussi sont globalement pas mauvais. Hein. Un peu sucrés, mais bon, certains s'en sortent très bien.
Alors justement, à propos des cornflakes, j'ai appris quelque chose, Patricia Chéropoulos. C'est vrai que l'inventeur, le médecin John Harvey Kellogg, les a créés pour lutter contre la masturbation. Parce que, bon, alors, je sais pas, on n'y pense pas quand on... quand
oui,
on,
c'est vrai, ça saute pas aux
quand
yeux.
Quand on mange des cornflakes, non, mais, a priori non.
Alors, c'est pas faux ni vrai. Enfin, voilà, c'est un peu un raccourci. C'est vrai que ce monsieur, donc à la fin du 19e siècle, ce médecin était condamné, comme beaucoup, hein, à la masturbation et autres péchés. Et il a aussi lutté pour que les personnes aient une alimentation saine, qui pour lui était un des piliers justement d'une vie saine. Et il a mis au point justement ses cornflakes de façon un peu accidentelle d'ailleurs, hein, avec son frère. Donc il s'est jamais servi des cornflakes pour, voilà, comme rempart contre la masturbation. Hein.
Parce que nous, on n'a jamais fait lien et surtout, j'ai jamais vu d'effet, quoi. Donc
voilà.
Comme ça, je pense que je ne suis pas la seule. Est-ce que le chocolat en poudre, est-ce qu'on parle aussi du petit-déj, hein, s'en sort mieux? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher nutritionnellement parlant?
Là encore, hein, c'est le sucre aussi qui est vraiment le point noir. Hein. C'est... Alors pas toutes, parce que les poudres chocolatées, certaines sont très chocolatées. Donc plus c'est chocolaté, globalement, plus il y a de cacao, moins il y aura de sucre. Mais beaucoup sont trop sucrées et ne contiennent quasiment pas de fibres pour certaines, hein. Même pour beaucoup. Voilà.
Les critères de qualité, justement, à observer quand on achète alors, du chocolat en poudre
alors
pour les enfants.
Pour les enfants, c'est peut-être moins facile, mais l'idéal, évidemment, c'est le cacao pur en poudre. Hein. Et c'est vrai que c'est ceux-là qui arrivent en tête parce que ils ne sont pas du tout sucrés, ils ne sont pas gras et ils contiennent des fibres. Parce que plus il y a de cacao, plus il y a de fibres, évidemment.
Ceux qui s'en sortent le mieux, d'ailleurs, sont bio. Hein.
Donc, quasiment toutes les familles, effectivement, ce sont les produits bio, même si on en trouve aussi un peu plus bas dans le classement, hein, mais c'est vrai. Et notamment pour les chocolats en poudre. Ouais. Ouais. Les trois premiers, ce sont des bio. Les cinq premiers.
Ouais, et il y a de quoi faire un très bon chocolat. Je vois le Van Houten qu'on me donnait quand j'étais petite et qui me faisait parfois grimacer et qui, en fait, est un très bon chocolat qui est même plutôt bien noté. Pour le chocolat en poudre, comme pour les céréales, donc on l'a compris, l'eau bio s'en sort le mieux. Les marques distributeurs, on en est où? Vous nous avez cité Intermarché, là, il y a un instant.
Oui. Non, elles sont souvent dans le peloton de tête, si je puis dire. C'est que il y a des marques nationales, mais franchement, les marques de distributeurs, comme souvent la plupart des produits, hein, s'en sortent bien. On les trouve aussi très bien placés. Donc, je crois que là-dessus, il n'y a pas de différence. Parfois, pour des prix moins importants, on a une qualité qui est aussi bonne, voire meilleure, parfois, que certaines marques nationales.
Hein. Le petit-déj, en fait, c'est un repas aussi important pour les enfants que pour les adultes, parce que effectivement, on voit bien dans les produits que vous proposez, il y a à la fois, enfin, dans votre étude, hein, il y a à la fois des produits qui sont très ciblés kids, juniors, qui d'ailleurs sont en général en bas de classement. C'est vrai?
Mais oui.
C'est dingue.
Les céréales au chocolat, c'est vrai que c'est pas les meilleurs.
Hein. On attire les enfants avec du sucre, même le chocolat en poudre de petit-déj, quoi. Et ceux sont en tête sont plutôt des produits qui seraient, je dirais, plébiscités pour les adultes.
Bah oui, parce que malheureusement, c'est que les enfants sont plus attirés, aiment le sucre, donc forcément, les fabricants vont aller dans ce sens-là. Et puis, on avait cité les céréales fourrées, ils aiment bien les céréales au chocolat fourré, donc il faut pas non plus les priver, mais en tout cas alterner. Bon, un petit déjeuner, on peut un jour mettre des céréales au chocolat qu'ils aiment bien, et le lendemain, peut-être plus du pain, des tartines, avec un bon chocolat au lait. Mais c'est vrai que pour les enfants, c'est très important, le petit déjeuner, parce qu'ils ont jeûné pendant toute la nuit, et pour refaire les réserves en énergie et en sucre, il leur faut un petit déjeuner, ce qui est moins le cas pour les adultes actifs, en tout cas.
On va se retrouver dans un instant. On va revenir ensemble sur la composition idéale d'un bon petit-déj. À tout de suite sur l'antenne d'RTL, Patricia Chéropoulos.
Jusqu'à 10h sur RTL,
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Comme. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Oh, les belles jolies couleurs de l'automne que l'on va pouvoir avoir dans son jardin, sur son balcon. Dans un instant, on va parler justement arbuste avec Pierre Nesman. Toujours dans l'automne, la châtaigne. On adore ça, mais on ne sait pas trop comment la cuisiner. Eh bien, Sonia Esguillian répondra à toutes nos questions. Mais pour l'heure, on parle du petit-déj avec Patricia Chéropoulos. Patricia Chéropoulos, de 60 millions de consommateurs quand même. Attention, ça ne rigole pas. Vous avez mené une étude dans votre magazine justement sur les céréales et les petits déjeuners. Donc on aura bien compris qu'il faut aller vers le produit, je dirais, le moins transformé possible évidemment. Essayer à la fois de ne pas avoir trop de sucre et avoir des fibres. De toute façon, on laissera nos auditeurs retrouver toute votre enquête qui est vraiment très intéressante. Je voudrais qu'on vienne maintenant sur la composition idéale d'un bon petit déjeuner. On a besoin de quoi?
Alors déjà, un produit céréalier, hein, donc pour avoir effectivement les fibres, pour pouvoir tenir en fait toute la matinée. Donc ça peut être du pain, alors idéalement du pain complet, des flocons d'avoine, hein, du muesli, pas trop sucré. Il faut également un produit laitier, que ça soit du lait ou un yaourt ou du fromage, et des fruits. Alors les fruits entiers de préférence. Parce oui. que sinon, voilà, on perd aussi notamment les fibres, là encore.
Oui, donc. Je pense notamment aux gens qui font, vous savez, des jus tous les matins et qui vont faire plein de jus d'orange, alors qu'il suffirait simplement de croquer une orange et pas en mettre 5 forcément dans le jus, parce que c'est forcément mieux. Vous savez, moi j'ai une préférence, je ne sais pas vous, hein, pour le petit-déj anglais ou américain, base fromage, charcuterie, des œufs, plutôt que les viennoiseries sucrées que l'on peut retrouver dans nos boulangeries. Qu'est-ce qui est le mieux, selon vous ?
Difficile à dire, au sens que fromage et charcuterie tous les jours, il ne faut pas non plus en abuser.
Moi, je parle le dimanche matin.
Alors, dans ce cas, oui, c'est effectivement, déjà, c'est des protéines. C'est bien d'avoir un bon apport protéinique. Et en plus, ça va rassasier davantage. Donc là, avec un petit déjeuner, justement, riche en protéines également, vous allez tenir jusqu'à midi sans avoir besoin de grignoter avec le fameux coup de mou de 10-11 heures lorsqu'on mange une viennoiserie, des produits qui sont très sucrés et qui ne vont pas assez nourrir. Donc, de temps en temps, effectivement, c'est très bien.
On peut faire quelque chose d'équilibré avec tout ça. Est-ce que les jus d'orange industriels certifiés 100% pur jus de fruits sont de qualité?
Ils sont plus de qualité que ceux qui sont à base de jus de concentré. Donc, vous savez, quand vous voyez pur jus de fruits ou 100% pur jus, bon, ils sont a priori plus naturels. Mais trop sucré, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fruits, en fait, dans un verre de jus. Ouais. Que ce soit d'ailleurs du jus industriel et même du jus pressé à la maison. On va utiliser 2-3 oranges. L'orange, il y a du sucre, notamment du fructose. C'est pour ça que là encore, il vaut mieux manger un fruit entier.
Et lesquels privilégiés?
Tous les agrumes, le kiwi, mais également des fruits de saison ou la pomme aussi, qui est intéressante pour ses fibres. Et elle est aussi rassasiante. Globalement, un peu tous les fruits finalement conviennent.
Merci beaucoup Patricia Chéropoulos. C'était sympa ce petit déj avec vous pour ce samedi matin dont nous voilà bien. Et on conseille évidemment votre numéro d'octobre qui est actuellement en kiosque 60 millions de consommateurs. À la prochaine. Salut Patricia.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Savez-vous planter un arbre ? Ce serait une bonne idée.
C'est toujours une bonne idée de planter un arbre. Moi, je sais planter les choux. Bonjour, Pierre Lesman.
Bonjour, Flavie. Bonjour à tous.
C'est super parce que planter un arbre, c'est aussi une belle symbolique, je dirais.
Oui, effectivement. Quand on a la naissance d'un enfant dans une famille, pourquoi pas? C'est prendre date dans le temps et puis se souvenir de cet événement dans les années qui suivent.
Oui, moi, je trouve ça toujours beau. Même au départ de quelqu'un, de planter un arbre, c'est une façon aussi de le faire exister toujours. Mais enfin, ça n'était pas notre sujet, mais j'avais envie de le partager avec vous, Pierre Lesman, puisque vous êtes paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, mais également rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale diffusée sur M6. Oh, qu'est-ce que c'est beau en ce moment quand on se promène ?
Eh oui, il y a plein de couleurs d'automne. Ça, c'est un phénomène que l'on constate tous les automnes sous notre climat. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Les végétaux, les arbres et les arbustes ont besoin de protéger des organes fragiles que sont leurs feuilles, et donc ils vont s'en débarrasser. Ben oui, c'est pour ça. Et donc, avant de tomber, les feuilles vont se parer de très très belles couleurs. Alors ça, c'est pour les essences dites caduques qui vont perdre leurs feuilles. Mais il y a une autre grande catégorie de végétaux, les feuillages persistants qui gardent leurs feuilles. Eux ne vont pas perdre leurs feuilles. Et donc, cette catégorie qui nous intéresse, c'est effectivement ces feuillages caduques qui vont se parer de très belles teintes flamboyantes en automne.
Mais alors, que se passe-t-il, quoi ? Les petits cours de botanique, monsieur le professeur.
Alors, petits cours de botanique, Flavie, effectivement. Vous savez qu'en été, les feuilles sont vertes. Alors, elles sont vertes parce qu'elles possèdent de la chlorophylle. En automne, dès que les températures commencent à baisser, que les jours diminuent, eh bien, il va se former un petit bouchon à la base de ces feuilles qui va bloquer la circulation de la sève. Et là, la feuille va entrer dans une phase de vieillesse, une phase de sénescence. Mais avant de brunir, de sécher et de tomber, la feuille va passer par différents stades de couleurs parce que justement, la chlorophylle va progressivement se retirer.
Okay.
Alors, on va avoir des couleurs jaunes. Les couleurs jaunes sont dues au xanthophylle, qui est un pigment. Les couleurs orange aux caroténoïdes, qui sont les mêmes couleurs que l'on va retrouver dans les carottes. Et puis les tonalités rouges, eh bien, c'est dû aux anthocyanes. C'est un pigment qu'on va retrouver sur les fruits rouges.
Alors en même temps, on n'a pas toujours les mêmes couleurs au moment de l'automne, Pierre?
Alors effectivement, ça peut varier. Quand on a un automne, un bel automne, un automne où il fait froid, sec, où on a des gelées blanches, eh bien les couleurs s'intensifient. Alors les feuilles vont aussi tomber un peu plus vite parce qu'effectivement elles ont froid. En revanche, quand on a un automne qui est un petit peu plus pluvieux, un peu plus humide, eh bien la chlorophylle a un peu plus de mal à se retirer. Les couleurs sont un petit peu moins soutenues, un peu moins vives. Et puis on a constaté aussi que les couleurs pouvaient varier en fonction du sol. Vous pouvez avoir la même plante plantée dans deux terres différentes, et eh bien vous aurez des nuances qui vont varier un petit peu. Et puis enfin, il y a des questions génétiques aussi. On s'est rendu compte que toutes les essences qui proviennent d'Asie et du continent américain, comme les érables du Japon, l'érable du Canada, ont des teintes plutôt rouges, alors que les essences qui proviennent d'Europe, comme les hêtres, les chênes, vont plutôt avoir des couleurs vers le jaune et l'oranger.
Oh, c'est passionnant, ça me donne envie de reprendre des cours. Vraiment, c'est passionnant ce que vous nous racontez. Si je veux par exemple un arbuste de couleur rouge, Pierre Nesman, je choisis quoi ?
Alors, les rouges, il y a beaucoup de nuances. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les érables du Japon qui ont des tonalités de rouge, des déclinaisons de rouge. Alors, dans les rouges un peu sombres, rouge lit de vin, moi, je vous conseille la viorne, le Viburnum picatum. On va trouver aussi des hortensias, l'hortensia à feuilles de chêne. Vous aurez certains cornouillers américains. Il y a également des cornouillers sanguins, le fusain d'Europe. Et puis, parmi les arbres, il y a le frêne à feuilles étroites. Et puis, bien sûr, la fameuse vigne vierge. Et quand on est ensuite dans des rouges un peu plus vifs, un peu plus écarlates, vous avez l'arbre à perruque, qu'on appelle aussi le cotinus, l'aronia, le fusain ailé. L'arbre à perruque, c'est un arbre qu'on appelle à perruque parce qu'il a des afflorescences qui font penser à des cheveux. Et c'est comme s'il portait une perruque sur son feuillage. On l'appelle le cotinus. Et lui, il prend de très très belles teintes rouges fluorescentes en hiver. Et puis, il y a également le chêne rouge d'Amérique, le copalme d'Amérique, qu'on appelle également le liquidambar.
Bon, alors, moi, je veux un jardin avec du rouge, avec de l'orange, avec du jaune, avec de l'or. On va se retrouver dans un instant parce que vous me donnez envie vraiment de m'occuper de mon balcon ce matin. Pierre Nesman, et ensuite, on parlera de la châtaigne avec Sonia Esguignan. Vous ne bougez pas et nous non plus. À tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Comme.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Écoutez, on en voit partout, on rentre dans la saison des châtaignes, on peut même en ramasser dans les forêts, c'est super, mais qu'est-ce qu'on en fait de la châtaigne ? Sonia Esguignan va nous donner des conseils dans un instant, mais pour l'heure, regardez-moi ces belles couleurs ! Votre livre, Pierre Nesman, s'intitule « Mon jardin s'adapte au changement climatique chez De La Chaux Niesley ». Mon jardin, là, il est en train de prendre des couleurs complètement, je dirais, féeriques, une sorte de féerie automnale. On a compris d'où venaient les couleurs. Maintenant, peut-être que parfois, on a envie d'en mettre quelques touches supplémentaires dans nos jardins ou sur nos balcons. Comment est-ce que je peux avoir de l'orange ?
Alors, l'orange, on va choisir des arbustes tels que le parousia de Perse, l'érable plane, l'érable de Burger, mais il y a aussi des petits arbustes d'ornement comme la mamélis, la mélanchier, le rusticina ou l'arbre caramel. L'arbre à caramel, c'est le cercidiphyllum. Alors, il va prendre de très jolies teintes orangées en automne, mais aussi, il va dégager une odeur de caramel. C'est assez étonnant.
Ah, super. Et ça dure longtemps, ça, tout ce feuillage ?
Tout ce feuillage, ben, ça va dépendre de la température, ouais. Mais en général, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Et puis ensuite, le feuillage brunit et il finit par se dessécher et tomber. Puis les arbres se dépouillent complètement.
D'accord, donc il faut vraiment pouvoir en profiter dans le même temps, parce que c'est une explosion, c'est comme un feu d'artifice de couleurs, mais il faut savoir qu'il y aura un bouquet final, quoi. Si je veux du jaune, mais moi je veux du jaune qui pète, hein, je voudrais du jaune doré.
Alors justement, dans les arbustes, vous avez les spirées, le forsythia, mais surtout dans les arbres, il y a des arbres tout à fait emblématiques, c'est le bouleau, le fameux ginkgo biloba, on l'appelle aussi l'arbre aux 40 écus, il porte bien son nom en raison justement de ses couleurs d'automne. On va trouver aussi le tulipier de Virginie ou l'iriodendron, le hêtre, le frêne et de très très nombreux chênes qui ont des couleurs dorées pendant l'automne.
On en parlait il y a un instant, parce que là vous me donnez envie évidemment de m'y coller, mais est-ce qu'octobre c'est un bon mois pour planter des arbustes ?
Oui, effectivement, c'est un très bon mois, puisque sur ces arbustes à feuillage décoratif, eh bien, on va pouvoir choisir les couleurs d'automne. Mais surtout, le moment de planter en automne, c'est intéressant parce que la terre est encore chaude de l'été. Donc, les racines vont pouvoir se développer, affronter l'hiver, et surtout si l'hiver est très froid, pour pouvoir passer l'hiver et au printemps prochain, démarrer et surtout permettre aux arbustes de mieux démarrer, comme s'ils avaient toujours été en place dans votre jardin. Donc, l'automne, c'est vraiment le bon moment pour planter les arbustes.
On parle beaucoup du jardin. Est-ce que ça fonctionne aussi sur les balcons ?
Alors complètement, on va plutôt s'orienter sur des arbustes d'ornement, leur prévoir un bac suffisamment grand, 40 à 50 cm d'envergure pour qu'ils puissent se développer. Mais j'attire votre attention sur le fait que sur un balcon ou une terrasse, on a souvent des vis-à-vis à dissimuler. Donc il vaut mieux utiliser les arbustes persistants dont on a parlé tout à l'heure et mettre quelques arbustes à feuillage d'automne. Ça permet de voir les saisons, de vivre les saisons. L'automne, eh bien, ça marque la fin d'une année et ça permet de démarrer une autre année. Donc il faut sur une terrasse mélanger persistant et feuillage caduc avec des feuillages d'automne.
Est-ce que je les arrose quand même ?
Ah, complètement. Les arbustes qui sont installés dans des pots sur un balcon ou une terrasse ont besoin d'eau, même si effectivement ils perdent leurs feuilles. Il ne faut pas que le substrat se dessèche totalement. Donc il faut de temps en temps effectivement apporter de l'eau avec un arrosoir, même en plein hiver. Alors on va le faire plutôt en milieu de journée, lorsqu'il ne fait pas trop froid, mais il faut toujours maintenir le substrat humide.
Est-ce que je les taille ?
On va les tailler aussi, beaucoup moins qu'au jardin, parce qu'il faut savoir que ces arbustes, eh bien, ils ont moins de terre, donc ils vont moins se développer, ils ont moins aussi la possibilité de réagir à une taille qui est quand même un coup de stress pour eux. Donc on va les tailler, on va juste se contenter d'éclaircir l'intérieur des couronnes et puis d'enlever les branches qui nous gênent ou qui sont un peu encombrantes.
Ah, Pierre Nesman, je vous envoie des photos, d'accord, ce week-end, parce que vous m'avez
avec
vraiment
plaisir
donné envie de mettre de l'automne un petit peu partout autour de moi, parce qu'effectivement, ça n'est pas que, je dirais, la mort du végétal, l'automne, c'est aussi la flamboyance de cette saison. Merci beaucoup, Pierre Nesman, d'avoir accepté mon invitation ce samedi matin. Vous aimez la châtaigne ?
Oui, bien sûr, et puis c'est effectivement la saison.
Ah, c'est la saison. Vous savez la cuisiner, vous ?
J'aime beaucoup les gâteaux à la châtaigne.
Ah, ben on va demander à Sonia Esgulian si elle peut nous donner éventuellement une recette rapide. Merci beaucoup, Pierre Nesman. Je vous embrasse.
Merci, bon week-end.
Châtaigne dans les bois, se fendent, se fendent. Châtaigne dans les bois, se fendent sous nos pas.
La châtaigne dans la cabane au fond du jardin. Merci à notre producteur adoré Julien Bonneau qui nous soigne évidemment la programmation musicale et nous permet de découvrir parfois aussi certains titres inconnus de nos chanteurs préférés. C'était Francis Cabrel. Bonjour Sonia Esgulian.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, vous êtes cuisinière, vous êtes auteure et journaliste. Vous avez entendu Pierre Nesman nous parler du gâteau à la châtaigne ?
Oui, c'est un gourmand, hein, parce qu'on fait souvent avec de la crème de marron ce gâteau.
Oh là là, mais c'est un petit peu fat tout ça ? Nos fesses ne disent pas merci à la châtaigne ?
Ah bah non, mais la châtaigne, c'est... Alors vous voulez les chiffres ? 2 fois plus calorique que la pomme de terre et la banane. Alors vous imaginez ?
Mais attends, mais oui, mais c'est tellement bon Sonia. Et puis ça dure pas longtemps la châtaigne, on en a pour combien de temps là ?
Alors là, on peut en trouver tout l'hiver, mais la super saison, c'est maintenant, c'est octobre et novembre. Alors c'est sûr qu'on en trouve sur les marchés, mais il faut aller la ramasser dans les bois, là, c'est génial.
C'est ça qui est agréable, c'est ce que je faisais quand j'étais petite. Comment est-ce qu'on les choisit, les châtaignes ?
Ah bah déjà, on ne se trompe pas. On choisit bien des châtaignes ou des marrons, mais pas le fruit du marronnier, parce qu'en fait, c'est ça la grosse différence. C'est qu'il y a un arbre, le châtaignier, qui produit les deux fruits, c'est-à-dire que la châtaigne, c'est le fruit quand il existe plusieurs petits fruits. Mmh. Et le marron, c'est le fruit entier, le gros fruit tout seul.
Voilà.
Donc c'est ça la différence.
Il faut ouvrir cette fameuse bogue.
Voilà, et c'est là où on sait qu'on va trouver. Mais pour différencier, en fait, parce qu'on n'est pas obligé de connaître exactement les arbres, pour être sûr qu'on a affaire à un châtaignier et pas à un marronnier, eh bien on regarde les bogues. En fait, le marronnier, celui qu'on ne veut pas consommer, à des bogues un petit peu verdâtres avec des pics qui sont toutes molles. Donc ça, déjà, on oublie. Et en fait, la nature est super bien faite, avec un petit peu d'humour. En fait, la châtaigne et le marron sont dans des bogues très piquantes, très hérissées de petites pics bien pointues. Donc là, on peut ramasser sans problème. Donc on le fait délicatement. Et puis après, on rentre à la maison pour les préparer.
On se retrouve dans un instant, justement. Vous allez nous parler préparation et recettes. À tout de suite dans Nous Voilà Bien.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, Nous Voilà Bien.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, Nous Voilà Bien.
Alors, les gourmands, vous avez vu ? C'est la grande saison des châtaignes. Et grâce à vous, Sonia Esgulian, eh bien, on va savoir les cuisiner. Vous savez ce dont je me souviens, Sonia, quand j'étais petite et que j'allais chercher des châtaignes avec mon grand-père. Alors, on repérait ces fameuses bogues très piquantes. Et quand on ouvrait, effectivement, il y avait plusieurs fruits dans la bogue, ce qui nous signifiait donc que c'était le bon fruit, c'était bien la châtaigne et non pas le marron. Eh bien, avec mon grand-père, on les ouvrait et parfois, je les mangeais crus.
Ah bon ?
Mais ouais.
Ah, ça, c'est fou, ça.
Alors, ça me faisait un petit goût amer dans la bouche, comme une sorte de, presque de petite anesthésie, voilà. Mais c'était mon petit plaisir de gamine. C'est un truc que l'on peut faire ou ça a l'air de vous surprendre ?
Ah, ça me surprend vraiment. Je pensais pas qu'on puisse manger la châtaigne crue, en fait. Non, j'en ai jamais goûté.
Eh bien, vous devriez. Moi, j'adorais vivre dangereusement.
À la prochaine fois, voilà.
Ouais. Parce qu'il y a une peau qui entoure, en fait, le fruit. Hein.
Voilà. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avec un petit couteau pointu, un petit couteau d'office, on fait une petite
incision. Et puis en général, on va plonger les châtaignes dans de l'eau bouillante. Alors on peut faire 5-6 minutes voilà, dans de l'eau bouillante. Et puis ensuite, on va enlever la grosse écorce. Et puis il y a une toute petite peau blanche aussi qu'on peut enlever. Ça, c'est vraiment bien pour terminer le fruit. Et alors la petite astuce, c'est que pendant que vous épluchez, vous laissez le reste des fruits dans l'eau chaude. Parce que ça permet de bien détacher, parce que c'est quand même un peu fastidieux à enlever cette peau. Donc voilà, vous les laissez dans l'eau chaude. Et puis au fur et à mesure, vous les épluchez. Et puis ensuite, eh ben, vous avez plusieurs solutions. Soit vous les cuisinez tout de suite, ou alors vous pouvez les faire des petites conserves. Ça, c'est top. C'est la bonne saison aussi. Alors, on les met dans des bocaux. On remplit pratiquement jusqu'à ras-bord. Enfin, on laisse un petit centimètre. Et puis, on fait stériliser après. Donc, on va faire cuire pendant à peu près 1h30 son bocal pour bien le conserver. Ou alors, si on a un petit peu la flemme, moi je les mets sous vide et je les mets au congélateur. Et comme ça, j'en ai ensuite pour tout l'hiver.
Avant de les cuire, est-ce qu'il faut que je les incise systématiquement ?
Oui, parce que sinon, ça va être compliqué. Ça ne va pas éclater, en fait. Parce qu'on voit bien que l'écorce en fait, de la châtaigne, c'est vraiment, vraiment très costaud. Et même quand on ne les fait pas bouillir, même quand on veut les faire, par exemple, sur les braises d'un feu de bois, d'un feu de cheminée, c'est hyper agréable. Eh bien, on fait une toute petite incision et ça va éclater, en fait, cette écorce et faire cuire les marrons qu'on va pouvoir après déguster tout chaud.
Moi, j'ai une poêle à trous.
Ah non, mais alors là, vous êtes super équipée.
Bah, ça, je le savais. Je suis de la campagne, êtes, ma Sonia. Voilà.
Et puis, vous adorez les châtaignes.
Oui, mais oui, donc, oui. Ça, puis, j'ai appris ça à la campagne. C'est, voilà, la classe, c'est cette fameuse grande poêle que l'on glisse, que l'on envoie dans la cheminée avec une très grande poignée et qui permet de faire cuire les châtaignes. Mais il y a d'autres manières de les cuire.
La châtaigne, souvent, on se pose trop la question de se dire mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ? En fait, la châtaigne, on peut tout faire. Ouais. Ça peut être un fruit ou un légume. Par exemple, c'est très très bon dans un jus de viande. Vous faites le poulet rôti, il vous reste un petit peu de jus de viande. Une fois que la châtaigne a été incisée, bouillie, on a bien retiré la peau, etc. On la fait bien cuire. Donc, comme si on faisait cuire des pommes de terre, sauf que ça cuit un petit peu plus longtemps. En général, ça cuit 30 à 40 minutes, hein, selon la grosseur des fruits. Et là, on va pouvoir servir ces petites châtaignes, en fait, dans un jus de viande. On peut également les mixer et en faire de la purée. Alors, 100% châtaigne, c'est un petit peu pâteux, donc je trouve que c'est un petit peu trop riche. Mais moi, j'aime bien, par exemple, faire moitié châtaigne et moitié céleri rave. C'est très, très bon, c'est léger et ça change vraiment des petites purées qu'on peut servir tout au long de l'hiver.
Et en dessert, alors, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'on avait tout à l'heure Pierre qui nous parlait...
Alors, du
gâteau à la châtaigne.
Donc, on peut se lancer dans les petits marrons glacés. Hein. Le marron glacé, c'est un marron qui a été plongé plusieurs fois dans un sirop de sucre. On laisse d'ailleurs la crème de marron. C'est né à partir des marrons glacés parce que les marrons glacés, en fait, ceux qui ne restaient pas complètement entiers, s'effritaient. Et les confiseurs, notamment le fameux Clément Faugier qui fait cette crème de marron, se demandaient ce qu'ils allaient faire de tous ces petits marrons éclatés. Et en fait, ils ont eu l'idée de remixer en fait ces brisures de marron glacé pour en faire cette fameuse crème de marron. Alors très souvent, on peut intégrer de la crème de marron avec des œufs, un petit peu de beurre et un tout petit peu de farine. Et on obtient ces gâteaux très moelleux à la crème de marron, bien riches, mais absolument délicieux. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce produit, ce sont les farines de châtaigne. Ça, c'est génial parce que on peut les utiliser. Alors souvent à 100%, c'est pas panifiable. Donc quand on les utilise, on va les mélanger un petit peu avec de la farine de blé ou une autre farine pour pouvoir faire, par exemple, des pains, des crêpes, tout un tas de préparations. Moi, il y a une préparation que j'adore. Il s'agit des gnocchi. On n'est pas dans le dessert, mais je repense à cette recette. On va utiliser moitié pomme de terre, moitié châtaigne, et on va ajouter un tout petit peu de farine de châtaigne. Et là, on va obtenir des gnocchi qui sont extrêmement goûteux. Ça, c'est original, en fait, aussi pour l'hiver.
C'est une super idée. On fait quoi aujourd'hui ? On fait un velouté ?
Alors, aujourd'hui, on va se faire un velouté. Donc là, le velouté, je prends mes châtaignes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vais les inciser et je les plonge à peu près 5 minutes dans de l'eau bouillante. Je retire bien la peau sur le fruit. Et ensuite, dans une cocotte, eh bien, je vais faire revenir une belle garniture aromatique. Donc là, par exemple, un poireau émincé, de la carotte, du céleri, tout ça coupé en petits cubes, une petite gousse d'ail haché. Je vais ajouter donc les châtaignes que j'ai bien épluchées. Je recouvre d'eau, à peu près 2 litres, parce que pour 1 kg de châtaigne, il faut vraiment une bonne quantité d'eau. j'assaisonne de sel, et là, je fais cuire pendant une heure et demie. Le top, c'est qu'on réduit de moitié si on utilise la cocotte minute. De temps en temps, ça peut être pas mal. Donc, on fait cuire quand c'est bien, bien moelleux. Et bien là, on va passer, on a deux solutions. Soit on passe au moulin à légumes, on va avoir un velouté un petit peu plus épais. Ou alors, moi, j'aime bien la mixer très, très finement. Avec le bouillon, ça donne une texture extrêmement veloutée. Et ça, on le sert tout simplement avec des petits champignons des bois sautés et un peu de persil ciselé.
C'est vrai qu'on peut mettre du cacao ?
Alors, je fais une préparation avec du cacao. Mais alors ça, c'est pour un dessert express. Par exemple, je fais des petites meringues. Donc, je fais monter mes blancs d'œufs en neige. Et dans ces blancs d'œufs, je vais ajouter du cacao. Là, je vais obtenir des meringues toutes cacaotées, toutes bien couleur cacao. Mmh. Et je vais faire des meringues qui sont un peu plates, comme des feuilles. Et ça, je peux le servir avec de la crème de marron, tout simplement. Comme un millefeuille. Là, c'est un dessert extrêmement gourmand pour les soirées très fraîches où on n'a plus envie de sortir de la maison et qu'on a envie de se faire plaisir.
Donc, c'est vraiment le moment de le faire, en fait, en deux mots.
Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Sonia Esguignan, pour tous ces conseils. Je n'aurais jamais pensé, effectivement, cacao et châtaigne. C'est une super idée. Je rappelle votre page Instagram à votre nom avec toutes vos recettes et votre fidélité à notre émission. Salut, Sonia.
À bientôt, Sonia.
À bientôt. Car c'est déjà le moment de nous dire au revoir. Et oui, nous voilà bien, se termine. Merci à vous aussi de nous être fidèles. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur l'appli RTL et les recettes sont à retrouver sur RTL.fr. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 20h dans Jour J, le magazine qui explore les couloirs du temps et qui vous fait revivre les événements qui hantent toujours notre mémoire collective. C'est passionnant chaque soir sur RTL. Et puis samedi prochain, 9h15, on se retrouve pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous. Passez un très très bon week-end à l'écoute de votre radio préférée. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.